C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
J'invite l'ensemble des Français à, sans délai, sans attendre l'apparition d'un décret et sans que l'obligation soit inscrite dans le marbre, à porter un masque dans tous les lieux clos.
Le masque s'impose comme le geste barrière face à l'épidémie. Il sera obligatoire donc dans tous les lieux fermés dès la semaine prochaine et dès aujourd'hui même dans le département de la Mayenne où le seuil d'alerte a été atteint. On verra que les autorités ne veulent pas prendre le risque d'un retour de l'épidémie. Et on sera à Strasbourg où l'on a suffisamment souffert de la première vague. Dans le Grand Est, les gestes barrières, c'est une évidence. Au sommaire également, le témoignage d'une victime suisse de Tariq Ramadan. Des producteurs suisses se sont déplacés pour la première fois aujourd'hui en France pour entendre l'islamologue.
À force de crier dans le désert, je doutais de la justice. C'est très rassurant de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi.
Le cartel du jambon démantelé. 12 industriels condamnés à 93 millions d'euros d'amende. Absentéisme, prime, voiture de fonction, la Cour des comptes étrille la gestion des ressources humaines de Pôle emploi, la plus haute juridiction, adresse de nombreux reproches à l'opérateur public. Un sommet crucial pour l'Europe demain, avec un plan très ambitieux sur la table. La Commission devrait emprunter 750 milliards d'euros sur les marchés au nom de tous pour financer la relance. Geste de solidarité inédit. Et puis inquiétude pour la dune du Pilat en Gironde, elle s'affaisse de plus en plus.
Sur le long terme, ce qu'on va avoir, c'est une dune qui va être de moins en moins haute et qui va être de plus en plus étalée par rapport à sa forme et à sa position actuelle.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 0,46% à 5085 points. La météo, demain sera une journée de transition avec le retour progressif d'un temps plus ensoleillé, sauf sur les reliefs où les nuages seront encore bien présents avec même un risque d'orage. Ailleurs, temps mitigé, mais ça va s'arranger et redevenir estival ce week-end. Ne manquez pas les prévisions détaillées d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis, vous aimez lire, ça tombe bien, nous aussi. Et après le journal, on partira à Bordeaux avec Stéphane Place et les bons conseils lecture de la librairie Mola pour cet été.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est un réflexe qu'il va falloir acquérir rapidement. Quand vous claquerez la porte de chez vous désormais, n'oubliez pas votre masque. Il sera en effet obligatoire dans tous les lieux publics fermés dès la semaine prochaine et non pas à partir du 1er août, comme évoqué précédemment. Le gouvernement a finalement décidé d'accélérer le mouvement, de ne prendre aucun risque, alors que tous les regards sont aujourd'hui braqués sur la Mayenne, où le seuil d'alerte, c'est-à-dire 50 cas pour 100 000 habitants, a été atteint. Sans attendre, le préfet a donc décidé d'imposer le port du masque dès aujourd'hui, Charles Guyard, dans 6 communes, dont Laval, où vous vous trouvez.
Oui, mais dans cette grande surface de Laval, on n'a pas attendu l'arrêté préfectoral pour rendre obligatoire le port du masque. Depuis une quinzaine de jours, dès l'entrée, un grand panneau jaune invite à se couvrir le bas du visage. Et si cela ne suffit pas...
Monsieur, votre masque, s'il vous plaît.
Un vigile rappelle à l'ordre le client. Mais certains passent parfois entre les mailles du filet. C'est ce qu'a constaté Sandrine. Elle est responsable du rayon charcuterie.
Oui, régulièrement. Eh ben, on leur demande gentiment d'en mettre un. Donc, s'ils n'en ont pas, ils vont souvent dans leur voiture en chercher un et... Et ça se passe très bien.
Et mieux vaut être équipé, puisque depuis hier, le port du masque est donc désormais obligatoire dans tous les lieux clos accueillant du public, pour tous, à partir de 11 ans, et gare à celles et ceux qui ne respectent pas la loi.
On s'expose à une amende, qui est une amende de 135 euros.
Le préfet de la Mayenne, Jean-Francis Treffel.
C'est aussi un moyen pour les gestionnaires d'établissements recevant du public pour s'appuyer sur une réglementation qui leur permettra, dès lors qu'une personne ne souhaiterait pas porter le masque, d'appeler les forces de police pour que celles-ci puissent verbaliser si besoin.
Pour Noman, 13 ans, croisé à quelques mètres de la grande surface, il s'en est donc fallu de peu.
Je suis sorti aujourd'hui, après j'ai vu genre c'est écrit masque obligatoire, je savais pas. J'allais chercher un masque. Ah mais si je savais, il y avait des amendes, j'aurais déjà pris.
Dans les magasins, globalement, le masque est bien ancré dans le quotidien des Mayennais qui, pour certains, le portent même en continu, y compris dans la rue.
Charles Guyard en Mayenne. Donc pour Europe 1, notez que le port du masque est également obligatoire dès à présent dans le Finistère, sur certains marchés et dans les lieux clos des îles recevant du public, car là aussi une augmentation sensible de patients testés positifs a été constatée. Et il n'y a pas qu'en Mayenne et dans le Finistère que les signes d'une accélération du virus sont là, à Paris mais aussi à Marseille et en Nouvelle-Aquitaine où les hôpitaux commencent de nouveau à voir apparaître quelques cas, d'où cet appel du Premier ministre et du ministre de la Santé à une vigilance accrue. Jean-Rémy Baudeau, clairement le gouvernement préfère prévenir qu'avoir à gérer demain une nouvelle situation de crise.
Oui, et ça s'accélère car la pression monte sur le gouvernement. Depuis l'appel de plusieurs médecins à ce que le port du masque soit rendu obligatoire dans les lieux clos, l'exécutif en fait tente d'ajuster le tir. Souvenons-nous, mardi, lors de son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron annonçait un port obligatoire dans les prochaines semaines, par exemple à partir du 1er août, disait-il. Immédiatement, la date a été jugée trop lointaine par de nombreux médecins face au risque de deuxième vague. Aujourd'hui, l'Élysée confesse d'ailleurs une petite erreur de réglage, observe le relâchement et affirme que le président a, je cite, pris en compte la demande sociale d'aller plus vite. Alors l'obligation sera donc effective la semaine prochaine, on a entendu Olivier Véran lundi ou mardi. Encore un petit délai car en réalité, c'est qu'imposer le masque dans tous les lieux publics, ça pose quand même de très nombreuses questions légales, réglementaires, beaucoup de points qui ne sont d'ailleurs pas encore tranchés. De quel lieu parle-t-on exactement? Les bureaux, les magasins? Quid des contrôles? Quid des sanctions? À partir de quel âge? Bref, c'est tout ce travail juridique qui est en cours et qui sera précisé dans un décret. Mais une chose semble certaine, l'obligation portera sur les masques grand public, pas question pour l'exécutif de relancer un débat sur les stocks de masques chirurgicaux comme au plus fort de la crise.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Il y a des régions où l'on imagine que l'on est encore plus sensibilisé qu'ailleurs à ce risque de redémarrage de la pandémie. On pense bien sûr au Grand Est hein, qui a payé un très lourd tribut et qui applaudit dès demain cette obligation de porter le masque, comme le confirme ce reportage à Strasbourg de notre correspondant Arthur Elmbaché.
Très bien, on n'attend plus que ça.
On a cherché, on n'a pas trouvé de Strasbourgeois contre l'obligation du masque dans les lieux fermés.
C'est embêtant, mais je préfère être embêté que mourir. Mieux vaut être trop vigilant que pas assez.
Ah, et en espérant que tout le monde suive la consigne, hein. Tout le monde met son masque là où il faut et on ne se pose pas de questions. Il ne faut pas toujours attendre des instances politiques. On a assez dit qu'il n'y avait pas assez de masques, donc maintenant qu'il y en a. Pour les mettre.
Dans les supermarchés, enfin j'étais au supermarché ce matin, il y a beaucoup de gens ne portent plus le masque.
Gérard Blatt est le patron d'une boutique de vêtements près de la cathédrale.
Il était temps qu'ils le rendent obligatoire. C'est une mesure qui aurait été prise depuis longtemps.
Vous exigez de vos clients qu'ils portent le masque?
Alors non seulement je l'exige, mais généralement ils le font d'eux-mêmes. C'est se protéger lui, c'est ce que je lui explique aux clients, et ça nous protège nous, les équipes.
Et Gérard exige aussi des clients qu'ils se passent sur les mains un coup de gel hydroalcoolique avant de toucher les vêtements. Strasbourg, Arthur Elmbaché, Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit, Isabelle Millet.
Il est 22h06, merci d'écouter Europe 1. C'est la suite de votre journal. Les trois policiers mis en examen pour homicide involontaire et placés sous contrôle judiciaire dans l'enquête sur la mort de Cédric Chouvia, ce livreur de 42 ans décédé après un contrôle routier à Paris en janvier. Sa famille se dit soulagée, mais elle considère que la qualification d'homicide involontaire n'est pas appropriée à la violence des faits. À Marseille, 4 personnes placées en garde à vue dans l'enquête sur les possibles fraudes aux procurations. 4 personnes, dont un commandant de police qui exerce dans les quartiers nord, et une colistière de la sénatrice Samia Ghali, deuxième adjointe à la mairie de Marseille. On se souvient qu'entre les deux tours, c'est le camp de la candidate LR, Martine Vassal, qui était dans le collimateur avec des soupçons de vote de résident dans un EHPAD. Une affaire qui tombe mal, en tout cas, pour la nouvelle équipe municipale à peine constituée. Tariq Ramadan, entendu aujourd'hui pour la première fois par des procureurs suisses. Vous savez que le théologien est accusé de viol par plusieurs femmes en France, mais il y a donc aussi ce cas suisse, cette plaignante que l'on appellera Brigitte, dont on a modifié la voix, et qui a porté plainte pour des faits qui se seraient déroulés dans un hôtel de Genève en 2008. Soulagé que la justice s'intéresse enfin à son cas.
Je suis rassuré qu'il y a quelque chose qui se passe, enfin. Depuis le dépôt de plainte de Madame Ayari, forcément, j'ai eu 6 mois d'enfer, d'hésitation et de peur aussi, à finalement déposer ma plainte. Alors il y a toujours un moment d'euphorie quand on dépose sa plainte, parce qu'on se dit voilà, c'est fait et maintenant on va laisser faire la justice, et puis après on découvre que la justice elle se fait pas forcément au rythme auquel on aurait pensé. À force de crier dans le désert, je doutais de la justice. C'est très rassurant de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est comme si le jour se lève, ouais.
Voilà Brigitte, originaire de Suisse, qui accuse Tariq Ramadan de viol. Elle était au micro Europe 1 de Salomé Legrand. Et ce témoignage, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur notre site internet europe1.fr. Le rappeur MHD, qui était en détention provisoire depuis janvier 2019, accusé d'homicide volontaire, a été remis en liberté. Une mesure provisoire dans l'attente d'une décision de la cour d'appel. Je vous le disais dans les titres, un cartel du jambon a été mis au jour par l'autorité de la concurrence. Quand on dit cartel, on a l'impression qu'on est au beau milieu de la Colombie, mais non, pas du tout. Ça se passe en France. 12 industriels condamnés à 93 millions d'euros d'amende. Pendant 4 ans, ces entreprises se sont entendues pour imposer leur prix de vente aux distributeurs. Aurélien Fleurot.
Oui, après une longue enquête de l'autorité de la concurrence, de nombreuses preuves ont démontré que tous les grands industriels du secteur se sont entendus à la fois en amont pour acheter moins cher la matière première, et en aval pour, là aussi, fixer les prix qui les arrangeaient auprès de la grande distribution. Cela concerne des milliers de produits que l'on trouve dans les rayons, jambon cru, jambon sec, du saucisson. Une entente inédite selon Isabelle De Silva, présidente de l'Autorité de la concurrence.
L'un des cartels les plus importants que nous avons connus dans le secteur alimentaire. Les participants à l'entente échangeaient de façon très fréquente avant la négociation, pendant la négociation, après la négociation pour faire le point sur les chiffres qu'ils avaient pu obtenir. Donc on avait vraiment des échanges très très serrés.
Des pratiques illégales révélées grâce à la procédure de clémence qui permet à une entreprise mise en cause de voir sa peine réduite si elle apporte des preuves. C'est ce qu'a fait notamment le groupe Campo Frio. Des milliers de pièces ont pu être exploitées, notes, mails, relevés téléphoniques et même les preuves de 6 réunions secrètes dans des hôtels à Paris et à Lyon où tout ce petit monde se retrouvait autour d'une table pour se mettre d'accord. Les industriels visés par ces très lourdes amendes, 35 millions par exemple pour la Coperle, se défendent en dénonçant une vengeance de l'un de leurs concurrents, parlent notamment d'un document très contesté et réfléchissent déjà à faire appel.
Aurélien Fleureau, la Cour des comptes étrille la gestion de Pôle emploi. C'est un rapport très sévère, un document de 160 pages qui pointe le taux d'absentéisme, les problèmes de gouvernance et les avantages dont bénéficient les plus hauts cadres de Pôle emploi, Olivier Samin.
Oui, dans son rapport, la Cour pointe du doigt la progression continue du taux d'absentéisme qui atteignait fin 2018 un niveau très élevé, 22 jours par an en moyenne par salarié. Mais au-delà, disent les magistrats, ce qui frappe, c'est la perte significative de potentiel de travail. Par exemple, le temps de travail des conseillers est inférieur de 2,5% à la durée annuelle légale. Quant aux moyens humains consacrés par Pôle emploi au dialogue social interne, ils représentent 2,5% des effectifs, c'est bien de trop. Il faut, dit la Cour, les ramener à un niveau acceptable. La Cour qui juge également contestable certaines pratiques de gestion des cadres dirigeants. Quand un haut cadre est muté, par exemple, il touche une prime de mobilité qui peut dépasser 19 000 euros. Pôle emploi a tendance à être très généreux avec l'attribution de voitures de fonction. Enfin, la Cour s'alarme du montant de certaines augmentations individuelles et recommande la mise en place d'un comité des rémunérations.
Et alors Olivier, que répond Jean Basser, le directeur général de Pôle emploi ? Petit problème, visiblement, nous n'avons pas la réponse d'Olivier Samin qui était enregistrée, on vous dit la vérité, hein, sur Europe 1, ça n'était pas du direct, bon mais c'est pas grave. On imagine qu'il se défend, Monsieur Basser, le directeur de Pôle emploi, après ce rapport très sévère de la Cour des comptes. C'était en tout cas les précisions d'Olivier Samin. La Banque Centrale Européenne accentue la pression sur les 27, l'Union Européenne, qui doit adopter rapidement un plan de relance ambitieux, un coup de pression qui intervient la veille du sommet européen organisé à Bruxelles. Les chefs d'État et de gouvernement vont tenter de se mettre d'accord sur un plan de relance inédit, Isabelle Horry, avec la fin du tabou de l'endettement commun.
Oui, ce que nous nous apprêtons à faire ensemble, nous ne l'avons jamais fait jusqu'ici, rappelait cet après-midi encore un diplomate. La grande nouveauté du plan sur la table, c'est que la Commission européenne devrait donc emprunter au nom de tous sur les marchés. À ce stade, on parle de 750 milliards d'euros, c'est pour financer la relance. Geste de solidarité inédit, une bonne partie de cette somme serait directement versée aux pays qui ont le plus souffert. Pour la France, le Premier ministre espère 35 milliards d'euros, c'est un tiers du plan français de relance tout de même. Le reste des fonds européens financerait la recherche, la santé ou encore les industries d'avenir. Ça, c'est donc l'objectif. Mais en cette veillée d'armes, on est loin d'y être. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on ne voit toujours pas les choses de la même manière. Les pays dits frugaux du nord veulent réduire la voilure. Les pays de l'est, eux, tiquent sur les règles de respect de l'état de droit. Voilà, la négociation est si complexe que personne n'est certain d'un accord ce week-end. Les discussions ont d'ailleurs en fait déjà commencé. De nombreux dirigeants sont arrivés ici en avance. C'est le cas d'Emmanuel Macron qui a plusieurs rencontres à son programme dès ce soir.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, avec qui nous suivrons bien évidemment ce sommet européen. Elle était restée silencieuse pendant le confinement. Greta Thunberg et trois autres jeunes militantes écologistes lancent un nouvel appel aux dirigeants de l'Union européenne pour faire face à l'urgence climatique dans une tribune signée par 150 scientifiques et par de très nombreuses personnalités. L'Église catholique veut traquer les abus sexuels. Le Vatican publie aujourd'hui un manuel à destination des responsables religieux. Manuel qui détaille la procédure à suivre pour enquêter dès lors qu'il y a le moindre soupçon. Si vous êtes en vacances du côté du bassin d'Arcachon, vous aurez sans doute envie d'aller voir la magnifique dune du Pila. C'est la plus haute dune de sable d'Europe. C'est absolument magnifique. Le problème, eh bien, c'est que la dune est en train de s'effondrer. En un an, elle s'est affaissée de 4 mètres. Écoutez Nicolae Alexandre, il est ingénieur littoral à l'Observatoire de la Côte Aquitaine.
Sur le long terme, ce qu'on va avoir, c'est une dune qui va être de moins en moins haute et qui va être de plus en plus étalé par rapport à sa forme et à sa position actuelle. On a eu un hiver et un automne assez, assez intense en termes de coups de vent. Et donc, ben, la traduction, c'est que cette, la partie du sommet de la dune a fortement évolué et sa hauteur a, a globalement baissé. Et la, la tendance globale, elle va être de, d'avoir une dune qui progresse vers la terre et c'est effectivement une préoccupation importante localement. En arrière de la dune actuelle, on a la présence de camping, on a aussi pas très loin la, la route départementale. Et étant donné que la dune migre à des vitesses qui sont assez importantes, hein, entre 3 et 5 mètres de, d'avancée vers la forêt par an, c'est des rythmes très importants et donc il faut surveiller activement ces enjeux.
Voilà pour ces tristes prévisions de Nicolas et Alexandre, ingénieur littoral à l'Observatoire de la Côte Aquitaine, joint pour Europe 1 par François Villemann. Ce sont des images inédites, celles envoyées par la mission Solar Orbiter, menée conjointement par la NASA et par l'Agence spatiale européenne, chargée d'observer le Soleil et qui vient donc, lors d'Autriche, de nous fournir des images époustouflantes.
Oui, jamais le Soleil n'a été photographié d'aussi près, 77 millions de kilomètres à mi-distance entre la Terre et le Soleil. Et cela grâce à une sonde qui s'est envolée il y a quelques mois. Les scientifiques ont observé un phénomène nouveau, des feux de camp, des éruptions miniatures partout près de la surface, alors que le Soleil peut sembler calme en apparence. Alors selon les experts, ces éruptions pourraient expliquer pourquoi il fait si chaud dans la couronne solaire, 1 million de degrés, alors qu'il fait seulement 5000 degrés à la surface du Soleil. C'est ce que détaille Tahar Amari, astrophysicien à Polytechnique.
Les théoriciens, d'autres, les collègues, nous-mêmes, dans notre équipe, avons envisagé qu'il y a des petites éruptions qui déposent justement leur énergie des éruptions. Cette énergie va chauffer la couronne et l'amener à une température de 1 voire 2 millions de degrés alors que l'on s'éloigne du Soleil et que l'on s'attendrait à ce que la température diminue.
Alors, ces premières images ne sont qu'un début. Cette mission doit permettre un peu plus tard de capter des images des pôles du Soleil, mais aussi de mesurer le champ magnétique de cette étoile encore bien mystérieuse.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. En rugby, début de saison, Tony Truant pour le top 14. La Ligue a dévoilé aujourd'hui le calendrier de la saison qui reprendra le 4 septembre avec un remake de la finale 2019 dès la première journée. Un choc entre Clermont et Toulouse. Autre affiche de ce premier week-end, le Stade français accueillera Bordeaux-Bègles. Et puis en foot, le Real Madrid de Zidane peut être sacré champion d'Espagne dès ce soir. Ça se passe en ce moment en Suisse, bien sûr, sur Europe 1. Les Madrilènes affrontent Villarreal. Et pour l'instant, Madrid mène 1-0 grâce à un but de Karim Benzema. S'il remporte autant de points que Barcelone, qui joue en même temps, alors Madrid sera sacré. Et pour l'instant, Barcelone est mené sur sa pelouse 1-0 par le club d'Osasuna. On jette un œil tout de suite sur la météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Et la météo, c'est avec vous, bien sûr, Anissa Haddadi. Et pour demain, attention, ce sera orageux sur les reliefs.
Oui, et principalement, Isabelle, sur les Alpes du Sud et la Corse, où là, les nuages seront encore bien présents demain matin. Et dans l'après-midi, ce sont des orages qui vont se déclencher. Ils pourront même être assez violents localement. Dans le Sud, le Mistral et la Tramontane soufflent toujours, demain jusqu'à 80 km/h, ce qui peut être désagréable en bord de mer. Au bord de la Méditerranée, toujours un ciel bien dégagé et le soleil qui brille demain. Et puis partout ailleurs, c'est un ciel encore couvert demain matin, avec du Pays Basque jusqu'à l'Alsace, une atmosphère assez humide avec quelques ondées possibles. Dans l'après-midi, une timide amélioration se dessine avec un petit peu plus d'éclaircies, un ciel plus lumineux sur l'ensemble de la France, mais ça reste encore timide. Les températures matinales, elles sont stationnaires avec 12 à 20 degrés du nord au sud demain matin. Dans l'après-midi, il fait frais dans le nord, seulement 19 à Cherbourg, 20 au Havre, 22 à Dunkerque et Belfort, 23 pour Clermont-Ferrand. Ailleurs, ce sont des températures encore en dessous des moyennes de saison. 25 pour Nancy et Rodez, 27 à Rennes, Albi et Lyon, 29 à Paris et Perpignan. Toujours chaud dans le sud avec 31 à Marseille et 33 à Montpellier. Allez, ce week-end, le soleil sera vraiment de retour pour toute la France. Et puis le début de semaine sera très estival avec des températures qui grimpent.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Dans un instant, un livre pour l'été avec Stéphane Place et la librairie Mola à Bordeaux. À tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30,
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h19 et comme tous les soirs, on va maintenant ouvrir un bon livre, une pause lecture grâce aux 55 libraires de Mola à Bordeaux, la première librairie indépendante de France associée à Europe 1 cet été encore. Un livre pour l'été, c'est avec vous Stéphane Place. Et alors qu'en France, on redoute un rebond de l'épidémie, on en parlait tout à l'heure dans le journal. Depuis plusieurs jours, le département de la Mayenne enregistre une nette augmentation du nombre de cas avérés de Covid-19. Hier d'ailleurs, Santé publique France a annoncé que le seuil d'alerte y avait été franchi avec plus de 50 cas pour 100 000 habitants. Nous vous parlons ce soir de cet essai qui a une résonance singulière, bien sûr, en cette période. Ça s'appelle « Les sentinelles des pandémies ».
C'est un livre que l'actualité place sous les feux des projecteurs parce qu'aujourd'hui, nous avons tous des interrogations sur les dispositifs d'alerte qui, à l'échelle mondiale, permettent de mieux appréhender les risques d'une pandémie. Et cette enquête qui nous emmène en Asie, de Taïwan à Singapour en passant par Hong Kong, détaille ces mécanismes de surveillance avec les chasseurs de virus, les observateurs de la vie animale, des oiseaux en particulier, et les relations indispensables avec les autorités de santé publique. Les sentinelles des pandémies, un document dont Pierre Coutel, libraire chez Mola, vous recommande la lecture.
Ces pandémies, elles mettent en question le rapport entre les hommes et les animaux. Et donc lui, il s'est intéressé à ce qu'il appelle les sentinelles des pandémies, qui perçoivent très rapidement les signaux faibles, justement parce qu'elles sont proches des animaux, soit parce que ce sont des paysans, des chasseurs, etc., essentiellement dans la zone de l'Asie du Sud-Est, essentiellement en Chine et à Hong Kong, et qui finalement comprennent très rapidement qu'il y a une transmission qui va se faire de l'animal à l'homme. Ça fait, on va dire, une quinzaine d'années que les grands scientifiques qui travaillent sur les pandémies savent que l'horizon, c'est l'advenue d'une pandémie. On savait qu'elle allait arriver, on ne savait pas quand, on ne savait pas comment, on ne savait pas par qui, mais l'idée c'est que forcément il fallait se préparer à l'arrivée d'une pandémie qui serait une pandémie d'origine animale.
Faut-il encore que les alertes soient entendues, relayées et sans tarder? Anthropologue Frédéric Keck est l'auteur des Sentinelles des pandémies.
Le gouvernement chinois a quand même mis 3 semaines à réagir une fois que les médecins ont lancé l'alerte sur ce nouveau virus. Les sentinelles perçoivent les signaux d'alerte, par contre les lanceurs d'alerte, il faut qu'ils expriment ce signal dans l'espace public et souvent ils ne sont pas écoutés, notamment en Chine où il manque la liberté d'expression, la possibilité de porter l'alerte dans l'espace public. Celui qui lance l'alerte est toujours menacé de ne pas être écouté. Lire des virus sur des corps d'animaux, ça c'est incontestable, on voit que le virus est là. Par contre, dire que ce virus va être pandémique, c'est un pari. Et à chaque fois, celui qui fait ce pari prend un risque, le risque de ne pas être écouté. Bon, à Hong Kong ou à Taïwan ou à Singapour, on fait confiance aux scientifiques qui lancent l'alerte. En Chine, c'est plus difficile de leur faire confiance parce que toute la chaîne de transmission de l'information est assez opaque.
Alors, cet ouvrage a été écrit avant la crise sanitaire actuelle, ce qui n'enlève rien à la pertinence du propos, d'autant que l'auteur a rédigé une postface sur les premières leçons du coronavirus de Wuhan.
La chronique de Stéphane Place avec la librairie Mola à Bordeaux, à retrouver tous les jours sur Europe 1. Rendez-vous donc pour une autre découverte demain, même heure. Autre rendez-vous estival sur Europe 1, ça s'appelle La Bonne Idée. Tous les soirs, avec vous Thierry Dagiral, nous tirons un coup de chapeau à une initiative, à ceux qui, après cette crise, se mobilisent et innovent.
Bonsoir Babette de Rosière.
Bonsoir Thierry, comment ça va ?
Bon, ça va pas mal. Ça va pas mal quand je vous entends. Chef, vu à la télévision, conseil régional d'Île-de-France, vous avez lancé l'Île-de-France Fête, ses restos, des restos qui ont traqué après cette crise.
Hein. Ah oui, bien sûr, parce que la crise a été très dure pour les restaurateurs. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée avec Valérie Pécresse de faire justement en sorte qu'ils démarrent, qu'ils redémarrent leur activité d'une façon plus cool. En lien avec les maires, on leur offre des terrasses.
C'est ça.
Ils peuvent s'étendre sur le domaine public. Mmh. Et en plus, on les accompagne avec des partenaires qui leur font des remises sur tout ce qu'ils achètent pour reconstituer leur stock.
Des
et
partenaires, on les c'est quoi
aussi
c'est...
avec des prêts rebonds, avec des prêts... Comment ouais.
Les partenaires, c'est quoi? C'est bien sûr ceux qui les fournissent.
C'est Rungis, ouais. C'est France Boisson, c'est Métro. Vraiment,
d'accord.
Les partenaires qui sont à leur côté, qui leur permettent de refaire un stock avec des remises et tout. C'est très intéressant.
Et vous le disiez,
très
la région les aide aussi avec des prêts rebonds. Hein.
Absolument, avec des prêts rebonds, prêts résilience, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont aucune visibilité bancaire, les banques ne leur font pas confiance. Mmh. Donc, on leur permet d'avoir un prêt pour reconstituer justement leur trésorerie, leur permettre de payer les charges courantes, parce que c'est bien beau, le gouvernement a promis plein de choses. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce sur les charges, les impôts, etc. Mais à aucun moment, ils ont parlé des charges courantes, l'eau, le gaz, l'électricité, les loyers. Mmh. Donc, il faut faire face à tout ça pour y ouvrir. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui n'ont pas pu faire face et qui ont régions fermées. Mais nous, régions, on est à leur côté et on les aide à redémarrer. Et ça fait tellement du bien. Ils sont tous au taquet. Il y a plus de 1000 villes qui ont répondu. Et ils sont là le dimanche. Ils sont heureux. Ils ont des terrasses. Ils travaillent. Ils font leur chiffre d'affaires. Et vraiment, c'est, ça fait du bien.
Babette de Rosay, il faut le rappeler, hein, c'est 4 milliards de chiffre d'affaires perdus pour la restauration.
Absolument. Absolument. Sans compter qu'il y a des problèmes au niveau de non seulement ça, il y a au niveau du chômage, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dû se séparer de leur personnel, qui n'ont pas pu payer justement le chômage technique, parce que quand on dit chômage partiel, etc., mais il faut que le restaurateur avance les sous et après on vous rembourse. Il y en a plein qui n'ont pas pu faire ça, et malheureusement, ils ont été obligés de fermer. Mais nous, ceux qu'on soutient, là, s'ils nous entendent aussi, les restaurateurs, ils peuvent se rapprocher de la région Île-de-France, ils font fête des restos, @ildefrance.fr, et on est à leur écoute, ou alors ils m'appellent à la case de Babette à Maule.
C'est ça, votre restaurant. Merci à vous, Babette de Rosier. Merci beaucoup.
Merci, Thierry.
La bonne idée, c'est tous les jours sur Europe 1 avec Thierry Dagiral. Dans un instant, jetterai un œil sur les unes de la presse. On va d'abord marquer une petite pause musicale en compagnie de Benabar. Et on jette un œil tout de suite sur les unes de vos quotidiens. Un sommet européen crucial pour la relance, titre Le Figaro. Les 27 se réunissent demain à Bruxelles pour tenter de trouver un accord sur le fonds de relance européen de 750 milliards d'euros. Les négociations achoppent sur les exigences des pays frugaux. Plan de relance, la valse des milliards, titre le journal L'Opinion. L'annonce des 100 milliards d'euros pour l'industrie, la transition écologique ou les compétences n'a provoqué aucun effet waouh. C'est pourtant l'arme majeure d'Emmanuel Macron pour 2022, écrit le journal. Dette Union européenne, le grand saut pour le journal La Croix, le partage des dettes entre pays européens au menu du sommet qui s'ouvre demain à Bruxelles, qui constituerait une percée fédéraliste. On en parlait tout à l'heure avec Isabelle Horry. L'Europe ne veut pas toucher au Grisby, titre L'Humanité. Le sommet européen qui s'ouvre demain ignore délibérément certaines pistes de financement, ISF, évasion fiscale ou encore taxe GAFA. Pour les échos, le phénomène Tesla bouscule la planète automobile. Le groupe californien vaut autant en bourse que Toyota et Volkswagen. De nouveaux acteurs profitent de l'engouement pour la voiture électrique. Les constructeurs historiques doivent se convertir au logiciel et à l'électrique, les deux créneaux d'Elon Musk. West France titre quant à lui sur les mesures renforcées face au virus. Des signaux de reprise de l'épidémie ont conduit le gouvernement à accélérer le calendrier du port du masque obligatoire dans les lieux publics clos. Ce sera la semaine prochaine, on le disait tout à l'heure. En Mayenne, où les chiffres ne sont pas bons, les mesures sont déjà mises en place. Elles ont été intensifiées. Et puis Bergame, la ville martyre revit, titre Libération, frappée au cœur par l'épidémie. La province italienne a perdu 6000 des siens. Habitants et élus racontent comment ils essaient de se reconstruire après la catastrophe. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide d'une de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute d'Europe 1. Il est 22h30 et vous retrouvez tout de suite Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Je vous dis à tout à l'heure 23h pour un nouveau point sur l'info. Tout va très bien.
Tout va très bien là.
Je suis en forme.
Bon, c'est bientôt
avec
les vacances.
Avec mes acolytes, avec qui nous avons fêté notre dernière soirée ensemble.
Eh bien, écoutez, vous m'envoyez ravi et je vous dis à tout à l'heure.
D'ailleurs, j'ai envie de les citer. Fred Dervin, qui est à la console, qui est mon réalisateur depuis 2 ans, un excellent réalisateur. Samuel Etchevest, qui s'occupe de ce qu'on appelle ici le bocal, c'est-à-dire qu'il est indispensable lui aussi. Et c'est vraiment une super équipe. J'ai passé 2 années... très, très agréable à la présentation de ce journal de la nuit. Bien sûr, et puis nos amis de boursier.com, Claire Lemaître, qui est là aussi, et Didier Hameau.
Et sans toute cette équipe, nous ne serons rien.
Voilà, hein, c'est vrai.
À tout à l'heure, Isabelle.
À tout à l'heure.